En fait, ouais, on s'est beaucoup posé la question du musée pendant longtemps, parce que c'est quand même une grosse institution, c'est un récit de l'histoire qui prend beaucoup de place et qui a beaucoup d'influence. Donc on s'est vraiment posé la question de ce que sera un musée décolonial pour nous et quelle est la place du musée. D'ailleurs, cette question-là, elle est revenue beaucoup dans mon groupe. C'était, mais est-ce qu'on veut un musée ? Donc du coup, c'était assez intéressant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une visite du musée de l'immigration à Porte Dorée, où justement on a détaillé comment est-ce qu'il a été construit, comment sa forme, tout ce qu'il y a, les bas-reliefs et tout, etc. Le monument marchand en face. Et du coup, là, à la dernière UDLA, on a décidé de faire plusieurs ateliers. On a séparé en 4 ateliers avec, bien sûr, des membres du comité de pilotage, mais c'était surtout pour entendre ce que les adhérents, les personnes qui étaient venues là, les personnes qui suivent l'université, avaient à dire sur ce que serait pour eux un musée décolonial. La forme, le contenant, le contenu, qui était très intéressant aussi. On a eu des personnes qui nous ont parlé d'institutions, qui étaient dans « mais oui, mais il y a déjà des institutions qui, peut-être qu'à l'intérieur d'eux, on pourrait faire ». Donc on est revenu beaucoup à l'exposition du modèle noir, au musée du Quai Branly, c'est Orsay. Et donc, voilà, c'était des discussions sur quatre groupes qui avaient l'air d'être denses. Bon, moi j'étais dans un groupe assez intéressant parce qu'il y avait la question de qu'est-ce qu'une archive en fait. La question de qu'est-ce qu'une archive, mon corps est une archive, ma langue est une archive. Donc voilà, ça a mené à une restitution. Donc on a tous discuté entre nous et puis on a restitué, chaque groupe a restitué. Donc plutôt des adhérents. On a essayé de pousser un adhérent à parler, du coup il était vachement timide, tu vois, de parler devant tout le monde, mais c'est ce qui est intéressant aussi. Et du coup, dans tout ça, Françoise a proposé l'idée d'une performance. Parce que l'université du 15 était encore en suspens un peu dans la forme qu'elle allait prendre en fait.
Une performance collective.
Collective, c'est-à-dire... elle avait justement proposé dans la réunion de préparation juste avant, pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas dans les ateliers de questionner les événements de 2005 à Clichy-sous-Bois et ensuite qui s'est répandu dans la banlieue parisienne. Et elle nous a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne poserait pas la question aux adhérents de partir de là et de voir quels sont les fils qui sont tirés à l'intérieur.
De l'exemple 2005, moi, il me plaît énormément. Parce que dans le questionnement décolonial dans lequel on est, dans le questionnement décolonial, il y a quel est le récit, à quel récit national on se raccroche. Dans la question des musées, le musée, c'est celui qui donne la version officielle du roman national. Donc c'est ça qu'on questionne. Donc là, la perche est tendue à chacun. Et prendre l'exemple de 2005, c'est passionnant parce qu'il y a un lien direct sur une question moi, qui me touche plus particulièrement, c'est l'histoire franco-algérienne, la décolonisation algérienne. Et en 2005, vous savez sûrement qu'on rétablit l'état d'urgence qu'on n'avait pas instauré depuis la guerre d'Algérie. Et donc, là, il y a des signes pour moi, déjà enfin, à cette époque-là, et ensuite dans toutes les analyses qu'on a pu aussi mettre en évidence, c'est voir le comportement de la police. Est-ce qu'il est hasardeux ou est-ce qu'il est systémique ? Et en effet, quand on trace le fil, quand on tire un fil comme ça et qu'on remonte, alors quasi logiquement vers la guerre d'Algérie, on pense à octobre 61. On pense au matraquage, on pense à Papon, et on se dit, mais c'est quoi ? C'est accidentel ou c'est... Ben non, c'est pas accidentel, enfin, etc. Et on pense à toutes les répressions en territoire central, moi j'appelle ça le territoire central, métropole, et ensuite les répressions coloniales. Donc En effet, octobre 61, et alors après, et toutes ces choses qui paraissent toujours, qui sont souvent racontées comme accidentelles. Mai 45 en Algérie, mais il y a aussi, comment dire, alors d'une certaine manière, on peut aussi parler de Madagascar, avec Moramanga, avec toute la répression des Malgaches. Et puis, en réalité, quand on s'intéresse à ces questions d'un peu plus près, ben, on se rend compte que ça existe à peu près dans tous les pays ex-colonisés. Même ceux pour qui on a dit, moi quand j'étais gamin à l'école française, etc., on disait, par exemple pour l'Algérie, on disait, oui alors guerre d'indépendance, enfin non, on disait les événements, après on a dit guerre d'indépendance, mais pour, par exemple Tunisie, Maroc, fin du protectorat, voilà. Fin du protectorat, comme si tout s'était fait gentiment, tranquillou. Il n'y a que les méchants Algériens qui sont des grandes gueules et je ne sais pas quoi, etc. Donc, en effet, tirer ce fil-là, bah forcément, ça va réinterroger soi-même rapport à ce pays, soi-même rapport à l'histoire de la répression. Alors, évidemment, chacun tira les conclusions. Hein. Alors, c'était quoi, les banlieues c'est une guerre décoloniale. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Ça permet de mettre en évidence le systémique, la façon de réprimer, de réprimander de la police. Mais après, très vite, on peut aller à l'armée. Puis très vite, on peut remonter dans le temps. Quoi. Voilà, octobre 61, mai 45. Si j'avais une ligne, moi, à tracer en ce qui me concerne, ça serait ça. Et puis je remonterais après. Ah tiens, mais comment on est arrivé là? Je remonterais après aux guerres coloniales, aux enfumades, aux massacres divers et variés. Voilà. Donc, voilà comment on part d'un événement contemporain, parce que ça, c'est une question aussi, hein, Jalil. C'est une question qu'on a aussi évoquée. Moi, dans le groupe que j'ai animé avec Catherine Nasser, on était dimanche dernier, donc on était 4x2, animateurs, entre guillemets, qui s'étaient déjà posé les questions à un musée décolonial, pourquoi faire, pour qui, comment, qu'est-ce qu'on met dedans, on met des corps en action, on met que des objets, on met quoi? Alors, ce qui revient très souvent, c'est je veux réinterroger le roman national. Je ne me reconnais pas dans le roman national. Et on voit bien que le musée, même si il n'y a aucun spécialiste hein, parmi nous, enfin, en tout cas, dans ADLA, on ne se revendique pas spécialiste d'un art ou d'un autre. La plupart, on va dire que l'essentiel d'entre nous, ça tourne autour du spectacle vivant ou d'image. Mais pour moi, qui ne suis pas spécialiste des musées, enfin, je ne suis pas spécialiste de quoi je serais, mais je suis très heureux d'aborder cette question-là, de me mettre en posture d'exploration. Ce qui m'a plu dimanche dernier, c'est que ça, on l'a partagé avec tous les gens qui ont participé à l'université. On était environ 90, quatre groupes. Tout le monde s'est remué les méninges. On n'a pas fait un cours magistral. Parce que ça aussi, c'est un questionnement à DLA, à l'École des Arts. On se dit, nous n'avons pas les sciences infuses. Nous avons nos interrogations. Moi, je suis en déconstruction. Moi, je suis en décolonisation constante. Je peux avoir fait, à titre perso, des spectacles sur le sujet depuis longtemps. Je peux avoir tenté de transmettre un certain nombre de choses. Mais je vois bien comment les choses s'inscrivent en moi et j'essaie de les nommer. Et nous, c'est ça qu'on essaie de faire à chacune de nos actions, nos activités. C'est l'Université des Colonies des Arts, mais on est prêt à inventer aussi d'autres choses. Les gens sont venus avec nous visiter Orsay pour le modèle noir. C'était passionnant de faire une visite, d'écouter la guide qui avait des choses à nous dire. Pas grand-chose apparemment, qu'ils aient beaucoup de bêtises. C'est très intéressant de voyager comme ça avec Françoise Vergès, avec Gertie Dambury, qui nous disent « oui, mais attention, là ». Et puis nous-mêmes, aiguiser notre regard. Mais qu'est-ce qu'ils disent là? Mais non, mais c'est quand même bizarre. L'abolition d'esclavage, c'est quand? Ah oui, alors, ah, mais c'est vraiment écrit en filigrane, hein, 1794. Hein. Mais alors... Napoléon qui rétablit l'esclavage. Mais ah bon? Mais d'où ça sort ça? Alors, je le dis de manière un peu naïve, mais combien de gens savent ça? Et comment on raconte cette histoire-là? Et ensuite, on indemnise les esclavagistes quand on abolit l'esclavage. C'est délirant, quand même. Ah oui, alors, faut pas dire ces choses-là, c'est des choses qui fâchent. Alors, comment on le dit?
Donc, ça fait penser aux indemnisations de renvoi des grands PDG, en même temps. Hein. Quand tu regardes les parachutes dorés, ah, tout oui. ça, etc., tu vois que c'est encore cette répercussion-là, des ouvriers qui sont complètement... qui savent pas comment joindre les deux bouts, et lorsque leur président part, et ben il repart avec 70 millions, 25 millions, je ne sais, des sommes astronomiques, alors que bon, c'est juste des présidents qui peuvent être interchangeables comme ça. Et alors il y a le mec de Louis Vuitton qui est à tel endroit à ce moment-là, il y a le mec de là qui va là, le mec de là qui va là, et en fait les personnes de la base restent toujours à souffrir dans les chaînes, et les personnes qui sont à la tête, on s'excuse de devoir les mettre dehors, donc on leur donne 25 millions. C'est terrible, c'est exactement. Mais je veux d'abord revenir avant ça sur la question sur ce que disait Mohamed tout à l'heure, sur c'est ce qu'on fait à l'université des LA. C'est-à-dire que ça change tout le temps de forme. On s'est retrouvé dans une forme de pit, c'est-à-dire rond, avec tout le monde qui puisse discuter, tout le monde qui puisse donner son avis, etc. On a fait des lectures avec des coups de casserole pour machin. On a tout fait. Et je pense que c'est ce qui est intéressant dans l'université de DLA, c'est qu'on n'est jamais dans une forme fermée. Et on n'est jamais dans... et les fois, on a été dans des cours magistraux. On en a eu peut-être 2-3, hein, je pense. Il y a eu Mehdi Derfoufi, Seloua Lusboulbina. Et on voit bien que c'est pas ce que les gens veulent, en fait. Ils apprennent des choses, mais en même temps, ils se questionnent pas. On leur donne quelque chose à manger, et ils le bouffent, et bon, ils le retraitent. Mais c'est pas, ils sont pas animés, en fait. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a eu des discussions où forcément François, Gerti, Leïla, qui anime énormément l'université, nous on anime avec ceux qu'on connaît, on prend la parole et tout, etc. Mais on apprend énormément de choses comme ça. Voilà, quand elles se mettent en retrait et qu'elles lancent quelque chose et que les gens peuvent le tripoter, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Et donc justement cette performance est intéressante parce que on peut y amener tout, comme on se posait la question, là c'est pas un hommage à Ziad Ebouna. Ça peut l'être, je veux dire, mais ce n'est pas le but du 15 décembre. Le but du 15 décembre, c'est comment tirer de cet événement-là les fils du passé, les fils du présent et éventuellement de ce qui se passera dans le futur. Et donc, on invite les gens à venir avec des coupures de journaux, des réflexions justement sur l'Algérie, sur la colonisation, sur l'esclavage. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « Oui, mais c'est pas le début de la colonisation, faut parler d'esclavage, etc. » Mais on lui dit « Mais justement, on pourra en parler. » Et on pourra, cette performance permettra qu'on en parle, justement. Mais... si c'était juste pour parler du passé sans en faire de lien avec le présent, ça n'a pas forcément, ça n'a pas vraiment d'intérêt, en fait. Et
puis ça serait trop facile.
Oui.
Parce que très souvent, quand on aborde les questions décoloniales, moi je remarque souvent, on dit oui, mais enfin bon, c'est fini, ça, nanana. Mais non, justement, moi je ne suis pas passéiste, je ne me sens pas passéiste, et je n'ai pas le sentiment du tout que ce soit le cas pour décoloniser les arts. Enfin, c'est comment on se meut aujourd'hui, comment on vit les uns avec les autres, comment on se regarde. C'est d'où vient ce regard, c'est quoi alors bon, là on a en quelques minutes, là on a pas mal parlé du systémique, hein, de comment les choses s'installent, comment on passe de l'oppression, de la répression, de la guerre décoloniale, avec il faut payer cash au bout. Hein, évidemment que ça ressemble au libéralisme, évidemment. Après on fait les ponts que l'on veut, mais on fait les ponts sur des choses qui nous intéressent aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va transmettre? Est-ce qu'on va être encore dans cette ignorance du systémique, ou alors est-ce qu'on va, on va le remettre en cause fortement? Et pour pouvoir le remettre en cause, il faut pouvoir se situer, il faut pouvoir raconter sa propre histoire, rapport au roman national qu'on nous impose depuis des décennies, voire des siècles. des siècles, parce qu'on a quand même inventé beaucoup de choses à la fin du 19e. Pour ce qui est le roman national français, on a inventé beaucoup de choses. Fêter le 14 juillet, en 1880, on met la tour Eiffel. Il y a plein de symboles comme ça qu'on nous impose pour nous parler de la grandeur. Et dans tous les symboles nationaux, il y a l'empire colonial. Il faut se vanter de l'empire colonial. Ben, excusez-moi, tout d'un coup, et en plus quand on est et qu'on grandit dans ce pays, ben, c'est des choses qu'on découvre pas spécialement à l'école. Donc je vais dire des banalités là, que tout le monde peut dire, mais c'est quand même ça. On peut pas remettre ça en cause. Et en fait, si, parce qu'à un moment donné, moi, je suis fils d'indigène. Bah ouais, mon père était indigène, mes parents étaient indigènes. Mon père n'était pas immigré, il est venu en France en 36. Mon père est mort en France en 36. Il n'est pas venu en... Il est venu en temps, il a changé de département. Donc, il a changé de département. Mon oncle, il a défendu la guerre, la France contre le nazisme. Il a écrit indigène sur sa carte militaire. J'ai vu ça à son enterrement, etc. Alors, toutes ces petites choses-là, finissent par être essentielles, parce qu'on se dit, mais comment on est regardé et comment on se regarde? Moi, je peux pas nier une partie de mon histoire, c'est pas possible. Je peux faire semblant, je peux faire corps, je peux faire France, comme disait l'autre, plein de sociologues disent ça, hein. Michel Tribalal avait écrit un truc, faire France, oui, ok, je fais France, je dis, je récite ma France, alors je suis gentil, je monte la papate, mais en fait, dès l'instant où on commence à remettre ça en cause, oulala, mais tu as un problème ? Non, j'ai pas de problème. Je m'interroge sur ma vie, mon histoire perso, familiale, comment je suis là, qui m'a amené ici. Et puis pourquoi, avec tous ces faux problèmes, soi-disant d'identité, je suis d'ici, je suis de là-bas. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis d'ici et de là-bas. Et puis, je suis du Mexique, et je suis de Palestine, et je suis du Vietnam. Enfin, j'ai jamais les pieds. Mais à un moment, la France a une chance énorme qu'on s'interroge là-dessus. Une chance énorme qu'on la questionne, parce qu'elle a toujours été forte de ça, de tous ses apports. Mais tous les apports, l'apport des colonies, c'est énorme dans la richesse française et dans la richesse culturelle et tout. C'est énorme. Sauf qu'avant, on s'écrasait peut-être, ou alors on risquait de se faire laminer ou déglinguer. Mais aujourd'hui, il y a une France qui est là, et qui a envie de savoir comment elle est construite pour continuer à vivre ensemble, pour avoir le respect de cette histoire. Sinon, c'est trop chaud, quoi. Sinon, c'est grave. Alors, le 15 décembre, ça va être génial, parce que les gens vont venir avec des propositions. Vous pensez 2005, ça veut dire quoi pour moi ? Ah, ben, j'en ai rien à faire. Alors, si, moi, je viendrais bien, par exemple, Ziad Ebouna. Je connais pas trop l'histoire. On peut se dire des choses comme ça. Alors, nous, on a donné 2-3 pistes. C'est quoi, la police? Comment elle se comporte? Elle se comporte comme ça partout. Enfin, Jalil en a assez parlé. L'armée, l'état d'urgence, l'urbanisme, les banlieues. Mais pourquoi on met toujours... Pourquoi le discours qu'on raconte sur les banlieues, là, aujourd'hui, là? Bah, moi, je sais pas, j'ai 57 ans. On le disait il y a 30 ans. Il y a 35 ans. Il y a quelque chose qui bouge ou pas? Comment ça évolue? Donc on peut se questionner, il y a quand même plein de pistes. Donc moi j'invite les gens à venir.
Est-ce qu'il faut avoir participé à la dernière session pour participer à la prochaine?
Non, parce que là on vient de dire un tas de trucs. Non, mais évidemment qu'on peut prendre le train en marche. Il faut prendre le train en marche. Sinon ça voudrait dire que ça contredirait ce qu'on vient de dire. Vous voyez, par exemple, quand on a évoqué la question de 2005 dans la proposition, en effet, comme disait Jalil, quelqu'un a dit « Oui, mais bon, il faudrait plutôt prendre la date de 1983, la marche pour l'égalité, parce que j'y étais. » Oui, mais bon, viens, mec, avec ton histoire de 1983, il n'y a pas de problème. Puis tu la mettras en lien, en balance, et on verra s'il y a un lien, s'il n'y en a pas. Et ça va nous permettre, parce que c'est bien de se raconter sa propre histoire. On se plante, c'est pas grave. On amène un objet qui a rien à voir, mais ça va peut-être résonner chez l'autre. Et puis, on est aussi nous-mêmes des artistes, hein, c'est quand même décoloniser les arts. On va voir, je sais pas, ce que ça va être cette séance, ça va être passionnant. On dirait une répétition théâtrale. Enfin, moi, souvent, on dirait un. Mais les gens n'ont pas besoin d'être spécialistes, ils viennent avec ce que ça leur évoque. 2005, en France, les banlieues, Ziad Ebouna, ou pas. Et puis, chacun vient mettre sa pierre à l'édifice.
Et après, ça se passe comment ? Donc, on arrive avec ses histoires, son matériau.
Non, c'est rien.
C'est ça le truc. C'est que tu peux venir avec ceux qui t'intéressent. Du moment que ça passe la porte.
Mais c'est génial.
Du moment que c'est suffisamment petit pour passer par la porte. Ça nous va. Que ce soit un texte, que ce soit une vidéo que tu as envie de projeter parce que tu as un truc, un projecteur et que tu as tourné un truc, que ce soit des photos, des coupures de journaux, des textes, des poésies, ton corps, ton propre corps, c'est ce qu'on disait, ton corps est une archive. Pourquoi ? Si tu veux danser, performer, rester planté là, ou si tu n'as juste rien envie de faire et regarder et ressentir, tu viens et tu fais comme tu le sens, parce qu'il n'y a pas de règles véritables. Il y a un besoin de s'entendre, de se comprendre, de voir ce que, comme disait Mohamed, ce qui résonne en toi quand on en est là et quand on parle de ça, si ça résonne en toi. Et bon, le mieux, c'est quand même que voilà, tu partes de Ziyed et Bouna parce que c'est l'événement qu'on a décidé d'utiliser pour exploser. Comme disait Marina, c'est un peu un événement étoile, quoi, qui peut partir dans plusieurs directions, donc c'est intéressant. Donc voilà, comme disait Mohamed, on ne sait pas ce qu'il faut amener. Il faut juste être à l'heure, quoi.
C'est à quelle heure ?
Alors, c'est à 4 heures.
16 heures, ouais.
16 heures. 16 heures à la colonie Barré, rue Lafayette, à Gare du Nord. Avec nous, si ça vous dit.